bonsoir à tous. C'est l'info du jour sur le plan économique. Paul Quévaux quitte Liesbus pour prendre la direction générale de Quête. Un nouveau défi pour un homme d'expérience dans le secteur industriel automobile. Les Moléonais qui consomment chez Lidl sont dans l'attente d'une décision de l'enseigne alors que le magasin est fermé et que des interrogations entourent le projet initial. La Fondation du patrimoine a doublé ses collectes pour atteindre 3,8 millions en 2023. Explication à suivre dans ce journal. Et puis, à l'approche du 77e Salon des Vins de Thouars, rencontre avec Clément Boss, un plombier chauffagiste reconverti dans la vigne. Pas tout à fait par hasard.
La météo à l'issue du journal avec plus de nuages pour demain.
La journée de mobilisation ce mardi dans la fonction publique. Une centaine de manifestants se sont retrouvés à Thouars et une centaine également à Niort. En fin de matinée, les grévistes issus de l'éducation et de la santé principalement ont dénoncé les conditions de travail et réclamé des revalorisations salariales. Les services de l'éducation nationale annoncent une moyenne de 8% de grévistes. Nous vous l'annoncions ce matin. Paul Quévaux prend la direction de Quête, l'entreprise qui fabrique des véhicules électriques à Cerizay. En attendant la construction d'une nouvelle usine à Rortay, précédemment directeur général délégué de Liesbus, ingénieur de formation, Paul Quévaux a travaillé durant 20 ans dans l'industrie automobile chez Eliès à Cerizay, puis chez Valmet en Finlande. Il a été notamment impliqué sur les premiers véhicules électriques de Peugeot et Citroën. Paul Quévaux se lance donc dans un nouveau challenge.
J'ai été séduit par cette entreprise, par son projet, par ses produits. Je crois que le futur de l'automobile, en tout cas un des futurs de l'automobile est à la mobilité légère, donc avec un véhicule sobre, durable, petit. Et c'est clairement le projet de Quête. En plus, c'est une entreprise implantée localement avec des grosses perspectives d'évolution. C'est tout ça qui m'a séduit. Et puis c'est un projet enthousiasmant. Je dirais qu'il y a tout à construire, il y a vraiment une industrie à développer et ça c'est un challenge que je souhaitais relever.
C'est osé pour vous de quitter Liesbus qui fonctionne très très bien pour se lancer dans une toute nouvelle entreprise.
Oui, mais c'est ça aussi qui m'intéresse. Comme vous disiez, Liesbus est une entreprise qui fonctionne bien, qui fait partie d'un grand groupe. J'avais besoin d'un peu d'aventure, un peu beaucoup d'aventure, je pense, et de challenge, de défi. Je pense que je ne pouvais pas passer à côté.
Cette nomination de Paul Quévaux à la direction générale de Quête concorde avec l'obtention d'un financement de 10 millions d'euros dans le cadre de l'initiative France 2030. La société se met en bonne posture pour accélérer la production et la commercialisation de son véhicule emblématique, la Quête originale, et pour élargir sa gamme de véhicules.
Ça montre le sérieux du projet. D'avoir le soutien de l'État, c'est toujours bon. Donc ça fait partie de l'initiative France 2030 et du plan Next Generation UE et France Relance. Donc oui, vous avez dit, c'est un soutien financier de près de 10 millions d'euros, dont plus de 70% est sous forme de subvention. Et c'est pour le développement technologique du futur véhicule AK1. Qui sera basé sur une plateforme sobre en matière, sobre en énergie, de type innovatrice, de type skateboard. Donc grosso modo, c'est un plancher en fait, avec les batteries intégrées dans le plancher et les roues aux quatre coins. Et ça laisse la possibilité et la liberté de pouvoir mettre énormément de carrosseries et de types de véhicules sur cette plateforme.
Paul Quévaux a donc quitté Liesbus pour prendre la direction de Quête, qui va poursuivre son développement sur cette même zone industrielle de Rortay avec la construction à venir d'une nouvelle usine de 9000 mètres carrés.
La commune de Moléon va-t-elle retrouver un magasin Lidl?
Fermé depuis quelques jours au 16 route de Poitiers, le projet d'un nouveau magasin sur un nouveau site est-il encore d'actualité, s'interrogent les Moléonais. Rappelons que l'enseigne a acheté un terrain à l'agglomération du Bocage-Brest-Suresse sur la zone commerciale de l'Esplanade, avec un permis de construire déposé, projet qui a désormais pris pour le moins du retard. Pour que Lidl revienne, faut-il encore trouver un investisseur qui construise le dit magasin, précise le maire de Moléon, Pierre-Yves Marolo, au micro de Jacqueline Pinon.
Aujourd'hui, je pense qu'il n'y en a plus qu'un. Cet investisseur me dit que les choses pourraient aboutir, mais encore une fois, le maire que je suis n'a pas plus d'informations, même si on s'appelle régulièrement avec les responsables de Lidl. La tendance était plutôt, d'après les responsables de Lidl, qu'il fallait effectivement un magasin, puisque le magasin fonctionnait bien. Croisons les doigts, puisque certaines personnes trouvaient que c'était un plus, et c'est vrai que c'était un plus sur Mauléon. Espérons que les choses aboutissent. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que l'investisseur y trouve, lui, un intérêt financier, bien sûr. Il faut que Lidl n'ait pas de loyer trop important. Mais c'est un problème entre privés. Et je pense que dans les 2 mois, on devrait savoir ce qu'il en sera pour l'avenir de Lidl.
Et rappelons qu'à la place de l'ancien magasin, une maison de santé pluridisciplinaire, un cabinet de kinésithérapeutes doivent prendre place. D'autre part, le cabinet X-Lab installé dans le centre-ville doit venir s'installer non pas dans ce bâtiment, mais construire un nouveau laboratoire d'analyse médicale sur une partie du parking actuel. Dans un tout autre domaine, des caméras de vidéoprotection vont faire leur apparition à Mauléon au nombre de 7. Elles sont positionnées sur des lieux stratégiques comme les ronds-points, le château et l'hôtel de ville.
Le budget de Mauléon voté à l'unanimité hier soir.
Il s'équilibre à 7 866 000 euros en fonctionnement, dont 2 680 000 euros de charges de personnel et à 4 900 000 euros en investissement. Pas d'augmentation du taux des impôts locaux maintenu à 14,10% pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, 38,23% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et 55% sur les propriétés non bâties, sur le foncier non bâti. Précision avec le premier adjoint chargé des finances, Yves Chouteau, au micro de Jacqueline Pinan.
Bon, je pense que le contexte, général déjà, et puis deux, particulier sur Mauléon, ne demande pas cette augmentation-là.
Des emprunts un peu plus élevés cette année ?
Oui, alors pour équilibrer donc notre programme ambitieux donc d'investissement, on va aller chercher, si le besoin donc s'en fait sentir au niveau trésorerie, donc en fin d'année, autour d'1,4 million, mais ça c'est le montant maximum qui a été indiqué donc lors du vote du budget. Il n'est pas sûr qu'on aille chercher le chiffre entier.
Est-ce que c'est un budget qui a été compliqué à monter ?
Le budget fonctionnement, on est quand même très vigilant sur les dépenses, hein, toujours, puisque pour mener donc le programme d'investissement important qu'on mène, eh bien, il faut aussi que ce budget de fonctionnement dégage un excédent.
Oui, avec une masse salariale qui augmente systématiquement.
Une masse salariale, donc le gros poste forcément donc pour notre collectivité, hein, comme à beaucoup d'endroits, et donc qui en effet, inéluctablement, à périmètre constant, augmente forcément.
Voilà pour Mauléon. Et puis la ville de Bressuire a aussi voté son budget hier soir. Il n'y aura pas d'évolution sur les taux d'imposition, ce qui ne va pas empêcher une augmentation pour le contribuable, puisque l'État a fait évoluer les bases de 3,9%. Plus de 14 millions d'euros sont inscrits dans la section investissement. La section fonctionnement s'équilibre à plus de 22 300 000 euros, dont plus de 44% pour les dépenses de personnel. En bref, le Sénat a adopté à l'unanimité des votants la proposition de loi déposée par Philippe Mouiller afin d'améliorer les retraites agricoles dès le 1er janvier 2026, conformément aux engagements pris par les pouvoirs publics l'année dernière. Concrètement, cette proposition de loi prévoit le calcul des pensions agricoles sur la base des 25 meilleures années de points. Pour le sénateur de Sévrien, en déposant ce texte, nous avons voulu aider le gouvernement à honorer ses engagements, une entrée en vigueur dès 2026 et l'absence de perdants. Fin de citation. Sur un autre sujet, la Confédération paysanne des Deux-Sèvres annonce un pique-nique ce jeudi devant la permanence du sénateur Mouiller à Maucoutan. Ce jeudi donc, il y a 21 mars, jour du vote, de midi à 15h pour réaffirmer la position de la conf contre le CETA et les accords de libre-échange.
La Fondation du patrimoine a doublé ses collectes.
L'an passé dans les Deux-Sèvres, l'organisme a connu une forte croissance de ses activités. Cela s'est traduit par le doublement des collectes. 3 800 000 euros, c'est le montant des retombées économiques directes et indirectes de l'action menée en 2023 par la Fondation dans le département. Cette fondation fonctionne avant tout avec des dons, comme nous l'explique Pierre-André Mastot, le délégué départemental.
La Fondation du patrimoine est effectivement alimentée par des dons de mécénats d'entreprises, mais également de dons de particuliers, donc de collectes populaires, de loto du patrimoine, puisque la mission Berne, qui est bien sûr plus récente que la Fondation, alimente également l'ensemble, mais aussi l'État à travers les successions en déshérence notamment. Et puis les appels aux dons ont doublé en 2023 par rapport à 2022, que nous avons obtenu pour nos territoires des prix du national, notamment la Chèvre Poitevine ou le prix Airbnb pour Coulonges-sur-Lautise. Et puis enfin aussi, pour la première fois, des collectes pour le patrimoine naturel, pour la replantation des haies ou la plantation d'arbres têtards dans le Marais Poitevin.
Pierre-André Masto citait aussi le château Boucard à Ménigout. La fondation du patrimoine compte à ce jour 9 mécènes. Chacun s'engage chaque année à hauteur de 3000 euros pour les communes et les collectivités. L'an passé, après le séisme qui a touché principalement des communes du Marais, une collecte a été lancée pour les églises. Patrick Ferrer, le délégué régional, également au micro de D4B.
Nous avons souhaité accompagner les communes qui étaient touchées par le séisme pour ce qui concerne la restauration et la sauvegarde de leurs églises, puisque nous sommes sur des dégâts très très importants et sur des toutes petites communes de moins de 1000 habitants. Et souvent, le montant des travaux est très supérieur au budget annuel de la commune. Donc, à partir de là, les risques, c'est de fermer définitivement les églises ou alors même de les détruire. Tout le monde peut donner. Il suffit d'aller sur le site de la Fondation du patrimoine et vous avez la possibilité de récupérer 75% du montant de votre don en déduction de votre impôt sur le revenu.
Et pour le moment, 20 000 euros ont été collectés pour ces églises. C'est insuffisant, a expliqué le délégué régional de la Fondation du patrimoine.
Le plombier Toircé réussit le mariage de l'eau et du vin.
Lancé la semaine passée par le concours des vins qui a validé en or et en argent la qualité des crus des vins de Loire, le 77e salon des vins de Thouars pointe le bout de son nez pour le week-end des 22, 23 et 24 mars. Parmi les 110 exposants, un petit nouveau, un Toircé qui se met en selle doucement. Il s'agit de Clément Boss, qui a 34 ans, n'arrive pas dans le milieu viticole par hasard, et pourtant, son parcours est plutôt atypique, comme il l'explique au micro-colline de Dominique Hérault.
Aujourd'hui, je suis en double activité, plombier chauffagiste chez Bernard Mijon à Saint-Jean-de-Thouars et aussi vinificateur à Tourtenay, où je fais de la transformation de jus de raisin en vin. Et j'achète des raisins sur pied et après j'assemble les différents terroirs du Toircé. Donc c'est plutôt des vins blancs secs à base de chenin et de cabernet franc. Le vin, c'est plutôt une histoire de famille, même si moi, à la base, j'étais pas dans le vin en formation initiale, en fait. Par contre, j'ai toujours été chez mes grands-parents qui, eux, étaient vignerons. Et du coup, j'ai côtoyé le vin toute ma jeunesse avec mon grand-père, Michel Gigon. À l'âge de 25 ans, j'ai commencé à m'intéresser vraiment au vin. Et j'ai refait des formations en reconversion professionnelle. J'ai fait une formation à Montreuil-Bellay en 2017-2018. L'idée à l'avenir, c'est d'être vigneron et donc d'avoir aussi la culture de la vigne. Ça, c'est ce que je ferai à Oiron à partir de septembre. Je vais reprendre le domaine familial chez Gigon.
Un effet miroir en quelque sorte, le plombier chauffagiste étreint donc une nouvelle vocation, lui qui a commencé à se faire la main sur le plan commercial en animant un stand sous les Halles lors du marché hebdomadaire du vendredi. Le salon des vins de Thouars qui s'ouvre ce week-end à l'Orangerie devrait permettre à Clément Boss, le digne petit-fils de Michel Gigon, de prendre une autre envergure.
Le jour où on est dans son stand, je pense que oui, j'aurais une fierté d'être vraiment dans l'orangerie du château de Thouars pour présenter mes vins et puis avoir le plaisir de voir les gens en face avec beaucoup d'amateurs de vin, quoi. Enfin, c'est aussi le pourquoi on fait ce métier. Ce qu'on nous on recherche après derrière, c'est de donner un peu de plaisir en fait, parce que le vin en soi, c'est que ça, quoi. T'en prends aussi quand tu vois que les gens en face sont heureux. Enfin, c'est aussi plaisant de donner plaisir aux gens.
Clément Boss au micro de Dominique Hérault.
Le chiffre du jour, Fabien, 914.
Vous avez peut-être tenté votre chance ce week-end sur la foire expo de Bressuire. Il fallait évaluer le poids d'une vache et 5 gagnants. Avez-vous juste avec 914 kilos. La remise des prix est prévue vendredi matin à l'abattoir de Bressuire.
Par l'actualité sportive ce soir.
En basket, la saison européenne pourrait bien s'achever ce soir, à moins d'un scénario inattendu pour Cholet Basket, à savoir une victoire à Malaga. Il faudrait aussi que Strasbourg batte les Turcs de Bursa. Alors les Choletais passeraient en quart de finale de la Basket Champions League, mais seulement dans ce cas de figure. En tennis de table, la Romagne accueille Rouen à ce soir à 19h30. Et puis en football, le tirage au sort du 7e tour de la Coupe Nouvelle Aquitaine avec un derby alléchant entre Gatifoot et le Talus, une D1 contre une R2. Les Talus D1 sont prévenus. Gatifoot a déjà fait tomber Bressuire et Échiré. Pour le reste, FC Otis en R3 reçoit une R1. Nautron à Saint-Pardoux, même écart entre Aubin Rortet et Fétia. Partenay joue à Ruffec, une R3 et Avenir 79 joue également chez une R3 à Aix-sur-Vienne.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Demain, mercredi 20 mars, Fabien.
Avec le début officiel du printemps ce mercredi, Un risque de brouillard demain matin. La suite sera assez lumineuse, même si les nuages sont un peu plus nombreux qu'aujourd'hui. Il pourrait même laisser échapper un tout petit peu de pluie dans l'après-midi. Un temps calme, toujours très peu de vent. 8-9 degrés demain matin, les maximales entre 17 et 19 sur la moitié nord, jusqu'à 20-21 sur la moitié sud.
C'est le printemps donc. Merci beaucoup Fabien. On se retrouve demain matin pour l'actu près de chez vous.
Et ce sera avec Boris Blais à partir de 7h. Bonne soirée.
C'était la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.